Mes amis, savez-vous que nous sommes au cœur d'un combat spirituel? Le monde des esprits est réel, les anges sont réels, les démons existent. Si vous êtes croyant, vous devez comprendre que vous êtes engagé dans un conflit spirituel. Jésus nous a montré comment réagir face à l'ennemi. Lorsqu'il était dans le désert, tenté par le diable, ce que Jésus a fait, nous devons le faire. Il est notre modèle et nous devons imiter ses actions et ses paroles. C'est ce que nous allons apprendre à faire maintenant. Bonjour, je m'appelle Bayless Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de difficultés relationnelles, d'une crise de santé ou de la recherche d'un but. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime. Et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, il a les réponses.
Précédemment dans Réponse avec Bayless Conley.
Si telle est votre vie à présent, aimeriez-vous que les choses s'améliorent? Aimeriez-vous que les choses prennent un tournant dans le bon sens? Passer du chaos à l'harmonie, du désespoir à l'espoir, de la maladie à la santé, de l'angoisse à la paix. Le navire peut virer quels que soient les vents qui tentent de l'entraîner. Comment faire virer le navire? En changeant ce que vous dites. C'est vous qui gérez le gouvernail et surtout, les mots que vous avez coutume de prononcer et qui sont en lien avec vos opinions, les choses qui viennent du plus profond de votre être et que vous avez coutume de prononcer auront plus d'impact sur votre vie que tous les autres mots que vous aurez dits. Proverbe 18:21 dit « La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. » Mes amis, c'est de vie et de mort qu'il s'agit. Cela devient plus intéressant quand nous regardons de plus près ce que Jacques enseigne. Revenons à Jacques 3:6. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. La langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le diable en a après votre langue. Satan veut inspirer vos paroles, parce que même si vous ne connaissez pas le pouvoir de vos paroles, lui le connaît. Jacques nous donne ici un aperçu de la manière dont fonctionne le combat spirituel. Je veux que vous écoutiez attentivement ces versets et que vous restiez avec moi. C'est tellement important. 2 Corinthiens 10:3. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. On parle de combat. Certains vont dire, mais enfin, pensée et raisonnement. Quel rapport avec le combat spirituel? Tout est lié. Le champ de bataille de tous les temps, mes amis, c'est l'esprit humain. Voilà comment le diable opère. Il propose une suggestion, une pensée qui s'oppose à la connaissance de Dieu et qui se dresse contre elle. Nous devons apprendre à emprisonner nos pensées. Saisissez-les, retournez-les dans tous les sens, examinez-les. Demandez-vous, une minute, d'où vient cette pensée? Quelle est son origine? Est-elle en accord avec les Écritures? Capturez-la! Il faut mettre cette pensée en prison. Si je lui laisse de la place dans ma tête, que va-t-il arriver? Elle va grandir et ne fera que progresser. Jacques commence par la fin puis revient au début. Cela commence par une pensée, et si nous ne maîtrisons pas la pensée qui s'oppose à la vérité de la parole, cela dégénère en un raisonnement. Avant, nous l'aurions complètement rejetée. À présent, elle commence à contester la vérité de Dieu et à trouver un écho dans notre esprit. Et si nous ne rejetons pas la pensée au stade du raisonnement, elle va encore grandir et devenir une forteresse. Une forteresse est une position à partir de laquelle l'ennemi peut agir. L'apôtre Paul, dans Éphésiens, a lui aussi parlé du combat spirituel. Je sais que presque tout le monde connaît ce passage. Éphésiens 6:11 dit Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Les stratégies, les tactiques du diable, il parle des diverses pièces de l'armure et de ce qu'elles représentent. Puis nous arrivons au verset 16 où il dit « Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. » Quel type de flèches ? Des flèches enflammées ! Quelles sont les flèches enflammées du mal ? Quelle est la stratégie de Satan ? Quelle est sa tactique ? Les flèches enflammées sont des pensées et des suggestions qui s'opposent à la connaissance de Dieu et à sa parole. Si vous ne les maîtrisez pas et ne vous en séparez pas, elles se transforment en raisonnement, puis elles deviennent des forteresses. Ces flèches enflammées et ce feu vont arriver sur votre langue. En fait, c'est ce que le diable recherche. Il veut que votre langue soit embrasée par l'enfer. Mais cela commence par vos pensées. C'est sa cible, c'est ce qu'il recherche au final. Si vous commencez à exprimer ces pensées, votre vie entière, chaque parcelle de votre existence va prendre feu. Une pensée surgit, tu ne sortiras jamais de ta dépression, tu devrais te suicider. Ton épouse et tes enfants seraient mieux sans toi. Tu n'es qu'un fardeau pour tout le monde. Si tu n'étais plus là, ils n'auraient pas à s'occuper de cela. Ce serait tellement mieux. Tu devrais mettre fin à tes jours. Ou encore, tu devrais divorcer. Ton conjoint ne répond pas à tes besoins. Tu dois te trouver toi-même. Tu as le droit d'être heureuse. Dieu n'a jamais voulu que tu te maries avec cette personne de toute façon. Les enfants ? Les enfants sont solides, ils s'en sortiront. Tu dois faire quelque chose pour toi, et vite ! La vie est en train de te passer sous le nez. Ou, tu sais que ton grand-père est mort très tôt, ton père est mort avant 60 ans. Tu vas mourir jeune, toi aussi. En fait, il y a déjà quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu ne le sens peut-être pas, mais c'est déjà à l'œuvre. Cela agit dans ton cœur. Tu ne vivras pas la moitié de tes jours. Ce qui leur est arrivé, cela va t'arriver à toi aussi. Que cherche Satan? Il veut votre langue. Que devez-vous faire? Lui résister. Vous rendez chaque pensée captive et vous la remplacez par la vérité, tout comme Jésus l'a fait quand il a été tenté dans le désert. Au tout dernier verset de Matthieu 3, les cieux s'ouvrent et Dieu le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Faisons deux pas dans le chapitre 4. Ce qui se passe ensuite, c'est que Jésus est dans le désert et Satan le tente. Il dit « Si, tu es le Fils de Dieu. » Remettant aussitôt en question ce que Dieu avait dit. Cette pensée, cette suggestion se dresse contre la vérité de ce que Dieu a dit. Dieu vient de dire « Celui-ci est mon Fils ». Satan dit, si tu es le Fils de Dieu, si. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Qu'a fait Jésus? Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On ne peut pas le nier, Satan est tenace. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, ses anges te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Oui, le diable connaît la Bible et il peut la citer hors contexte. Jésus a dit non. Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Tout de suite, il a rendu cette pensée captive. Aussitôt, il l'a rejetée et l'a remplacée par la vérité. Le diable va changer de tactique. Il dit, d'accord, je sais pourquoi tu es là. Il lui montre tous les royaumes du monde en un éclair. Il dit, tout cela est à moi, cela m'a été donné entre nous, c'est Adam qui lui a donné. Il dit, si tu te prosternes pour m'adorer, je te donnerai tout. Cela ira plus vite pour toi. C'est un raccourci. Jésus dit non. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Retire-toi, Satan. Alors le diable le laissa. Je ne pense pas faire de tort à l'histoire en disant qu'il l'a laissé meurtri et ensanglanté. Mes amis, c'est cela le combat spirituel. C'est ainsi qu'il fonctionne. Jacques 3,7, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. J'ai été pasteur adjoint quelques années à Banning, en Californie. Et j'ai notamment eu le privilège de diriger la louange. Je me souviens un matin, je suis debout avec ma guitare et le groupe joue. Nous adorons Dieu avec un grand sens de sa présence. Cette dame à ma gauche, elle devait être assise à droite, face à la scène. Elle était à ma gauche, les mains levées. Je vais vous dire, son visage rayonnait comme celui d'un ange. Elle adorait Dieu, bénissait son nom, chantait avec entrain et ne cessait d'adorer. Puis après le culte, elle m'a attrapé dans le hall d'entrée et avec la même langue qu'elle avait utilisée pour bénir Dieu, elle s'est mise à dénigrer quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Elle était très éloquente et animée dans sa critique et sa médisance à l'égard de cette personne. Elle a continué jusqu'à ce qu'elle voie que je ne répondais pas. Elle a dit « Vous êtes d'accord avec moi, bien sûr ?» J'ai répondu « Même si c'était le cas, je n'en parlerai pas. » Alors elle a braqué sur moi la petite chose rouge et rebelle derrière ses dents. Et elle l'a déchaînée contre moi. Une minute, on bénit Dieu. La minute suivante, on maudit les personnes créées à l'image de Dieu. Il ne devrait pas en être ainsi. Ne vous méprenez pas. Lorsqu'il s'agit de notre perception des personnes et des événements, la plupart du temps, il est sain de partager vos opinions avec les autres quand vous êtes prêt à les écouter également. Et que vos opinions ne sont pas basées sur des oui-dire de deuxième ou troisième main, sur des reportages tendancieux des médias. Et enfin, vous devez être prêt à soumettre votre opinion au conseil infaillible et toujours juste de Dieu qui est sa parole. Réfléchissez à deux fois avant de parler une fois. Le livre de Jacques dit « Soyez lents à parler ». Vous devez l'avoir déjà entendu. Pense, réfléchis à deux fois avant de parler. En anglais, think, réfléchis, T-H-I-N-K, T pour truth, vrai, est-ce vrai, si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. H pour helpful, utile, est-ce utile? Tout ce qui est vrai n'est pas toujours utile à répéter. Certaines personnes aiment colporter des ragots, et certains objets de ces ragots sont vrais mais pas utiles. Écoutez, en fait, c'est toujours mal de partager des informations privées avec des gens qui n'ont rien à voir avec le problème ou la solution. C'est du commérage et c'est un péché. Est-ce utile? Le I pour inspiration, est-ce source d'inspiration? Est-ce que cela va encourager et édifier les gens d'une manière ou d'une autre? Le N pour necessary, nécessaire. Est-ce nécessaire? Enfin, le K pour kind, bienveillant. Est-ce bienveillant? La femme de valeur de Proverbe 31, l'un de ses grands mérites, est d'avoir sur la langue un enseignement plein de bonté. Réfléchis avant de parler, est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce une source d'inspiration? Est-ce nécessaire? Est-ce bienveillant? Certains vont dire, attendez une minute, quel est l'intérêt? Ne venons-nous pas de lire qu'aucun homme ne peut dompter la langue? Alors pourquoi essayer si la bataille est perdue d'avance? Regardons cela de nouveau. Jacques 3, 7. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. Le mot « homme » signifie l'homme dans sa capacité naturelle. Elles ont été domptées par des êtres humains, c'est vrai. Allez à SeaWorld, où l'on trouve des orques et des lions de mer apprivoisés. Aux zoos de San Diego, on trouve des lions, des crocodiles, des éléphants et toutes sortes de bêtes imaginables. L'homme, dans sa capacité naturelle, a été capable de dompter et d'apprivoiser toutes les créatures du monde. Verset 8. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. Cela dit qu'aucun homme, dans sa capacité naturelle, ne peut dompter la langue. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser, elle est pleine d'un venin mortel. Il nous faut, et nous pouvons trouver une aide surnaturelle pour maîtriser notre langue. Vous ne pouvez pas le faire tout seul, vous avez besoin de l'aide de Dieu. Le jour de la Pentecôte, 120 personnes se sont réunies dans la chambre haute pour attendre la venue du Saint-Esprit. L'Esprit vint comme un vent puissant et impétueux, et des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. La première chose que fit l'Esprit fut d'inspirer leur discours, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de parler. Mes amis, votre langue et la mienne ont besoin d'inspiration. Vous trouverez cette inspiration soit en enfer, soit dans le ciel. Elle sera embrasée par l'enfer ou elle sera embrasée par le ciel. Pour ma part, je préférerais recevoir du feu de l'autel céleste et le voir embraser ma langue pour parler de bénédiction, de bonté, d'encouragement et parler en accord avec la parole de Dieu plutôt que d'accueillir les flammes infernales et de les laisser tout détruire dans ma vie et mettre le feu à la totalité de mon existence. La langue de chacun d'entre nous est dans l'attente de cette inspiration. Éphésiens 4, 29 à 31, « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Écoutez-moi, parents, grands-parents, vous pouvez former des champions avec vos paroles. Oui, vous pouvez former des champions avec vos paroles. Les mots que vous choisissez de dire à vos enfants et à vos petits-enfants, et les mots qu'ils vous voient prononcer quand vous êtes au milieu de la tempête, quand la tempête fait rage autour de vous, ils entendent ce que vous dites, et cela aura de l'influence sur eux. Je me souviens avoir lu l'histoire d'un homme, il écrivait sur sa vie, dans le Midwest, quand il était petit, son grand-père était agriculteur. Il y avait eu beaucoup de pluie et d'inondations, et toutes les récoltes de son grand-père avaient été détruites. Il dit, « Même à 8 ans, j'ai bien compris, nous n'avions plus rien qu'un dur avenir. Je me tenais devant ces champs détruits, toutes les récoltes perdues. Je tenais la main de mon grand-père et je regardais ces champs dévastés. J'ai regardé mon grand-père, des larmes coulaient sur son vieux visage usé par le temps. Il s'est mis à chanter, « Rocher des âges, fendu pour moi, laisse-moi me cacher en toi. Que l'eau et le sang de ton côté blessé qui coulait soit du péché le double remède. Sauve-moi de la colère et rends-moi pur. » Il a dit, « J'ai réalisé ce jour-là que mon grand-père avait compris que les choses spirituelles étaient plus importantes que les choses naturelles et qu'il avait mis toute sa confiance en Dieu. Il a dit, « Ce jour-là, à 8 ans, j'ai décidé que le Dieu de mon grand-père serait mon Dieu. » J'ai décidé ce jour-là, en tenant la main usée de mon grand-père, que je servirai ce Dieu de tout mon cœur et de toute mon âme pendant toute ma vie. Il ajoute, « Je l'ai fait. » Grâce aux mots qui sont sortis de la bouche de mon grand-père lorsqu'il a été confronté à cette terrible tragédie. En vérité, nous avons tous dans notre entourage des personnes qui ont besoin d'une bonne parole, d'une parole édifiante. Et Dieu cherche quelqu'un pour la leur transmettre. On a rendu ce témoignage à Job. Dans Job 4:4, il est dit, « Tes paroles ont relevé ceux qui trébuchaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. » Je veux être ce genre de gars. Vous devriez être ce genre de femme. Les versets suivants, les versets 11 et 12 de Jacques 3, renforcent ce qu'il a déjà dit et illustre clairement le genre de paroles que nous devrions avoir coutume de prononcer, étant donné que nous sommes croyants, et que notre source est le réservoir de l'eau vive. Je vous encourage à les lire et à y réfléchir. Nous n'avons pas le temps d'en parler à présent, mais je pense que la meilleure illustration du pouvoir de nos paroles provient du salut. Il est dit dans Romains, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, si tu le confesses de ta bouche comme Seigneur, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Quand il y a harmonie entre votre cœur et vos lèvres, cela peut changer votre destinée éternelle. J'avais de graves problèmes de toxicomanie et j'ai été alcoolique pendant 4 ans. J'ai répondu à l'appel dans une petite mission à Medford, dans l'Oregon. Et j'ai dit oui à Jésus, j'ai mis ma confiance en lui, et je l'ai confessé comme Seigneur. Et j'ai su que quelque chose avait totalement, totalement changé en moi ce jour-là. J'ai su que je le savais. Ma destinée éternelle a changé, passant de l'enfer au paradis. Quand j'ai accordé mon cœur et mes lèvres. J'ai souvent entendu le pasteur Tom raconter l'histoire de son père. Un an avant la mort de son père, qui était un ingénieur allemand, très précis et peut-être pas le gars le plus émotif, Tom lui a demandé, « Papa, irais-tu au ciel si tu mourais ?» Il a répondu, « J'espère bien. » Tom lui a dit, « Tu sais, tu ne peux pas te contenter d'espérer, tu dois régler la question, l'espoir n'est pas suffisant. » Tom a cité, « Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, confesse-le de ta bouche comme Seigneur, tu seras sauvé. » Il a dit, « Papa, tu dois régler l'affaire et être clair à ce sujet. » Il a conduit son père dans une prière. Il a dit, « Dieu, si je n'ai jamais été clair à ce sujet auparavant, pourtant il allait régulièrement à l'église. » Tom lui avait dit juste avant, cela lui était venu d'un coup à l'esprit. « Quand tu l'auras fait, papa, tu vas le sentir. » Son père a prié, « Dieu, si je n'ai jamais été clair à ce sujet auparavant, je veux l'être à présent. Je crois que Jésus-Christ est ton fils. Je crois qu'il est ressuscité des morts et je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. » Le père de Tom a dit ensuite, « Tom, je le sens, je le sens. » Il a dit, « Si je ne vis pas jusqu'au prochain Noël, sache que tu m'as offert le plus beau cadeau de Noël qui soit, le salut. » Il nous reste des choses à faire. Tout d'abord, je voudrais prendre un moment pour prier. Parce que je crois vraiment que quelqu'un dans votre entourage, peut-être un enfant, un frère, une sœur, en fait quelqu'un ici a un proche qui traverse une période très très difficile au niveau émotionnel et mental. Vous devez lui apporter des paroles de vie. Dieu va se servir de vous pour lui apporter de l'espoir, lui apporter du réconfort. Il peut s'agir d'un collègue de travail, du gars au supermarché que vous voyez tout le temps et qui emballe vos courses. Il peut s'agir d'un voisin, d'une personne de votre entourage qui a besoin d'être soutenue parce qu'elle est prête à s'effondrer. Vos paroles peuvent l'aider. Prions et demandons à Dieu, « Seigneur, s'il y a quelqu'un à qui je peux adresser des paroles de bénédiction et de vie, à qui je peux transmettre le feu de l'autel céleste, le déverser par ma langue dans sa vie, qu'il en soit ainsi. » À présent, prions. Père céleste, s'il y a quelqu'un que nous pouvons bénir, encourager par nos paroles, montre-nous. Montre-nous de qui il s'agit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien, vous savez, Marie, la mère de Jésus, a dit quelque chose de très profond. C'était lors des noces de Cana en Galilée. Elle a dit à son fils que le vin manquait. Elle a dit au serviteur, « Tout ce qu'il vous dit, faites-le. » Oh, c'est un bon conseil. Quoi qu'il vous dise, faites-le. N'y réfléchissez pas deux fois, ne tardez pas, faites-le. Presque toujours, 99% du temps, à la fin du culte, je conduis les gens dans une prière de salut. Confesser que Jésus est Seigneur fait ressortir clairement l'importance de ce point dans le message. Je veux juste vous encourager, quel que soit le lieu d'où vous me regardez, au dehors ou dans cette salle, en ce moment, dans votre salon, ou assis dans un pub en Écosse, réglez ce point dans votre vie. J'espère que j'irai au paradis quand je mourrai n'est pas suffisant. Il faut que vous en soyez sûr. C'est vrai, mes amis. Il n'y a rien de plus important au monde que l'état de votre âme et le fait d'être en accord avec Dieu. Si vous n'avez pas réglé cela, vous devez le faire maintenant. Repentez-vous de vos péchés. Confessez que Jésus est Seigneur. Je sais que certains me regardent en ce moment et que Dieu parle à votre cœur. Il s'est déjà adressé à vous. Abandonnez-vous à lui. Invoquez le nom du Seigneur. Mettez de l'ordre dans votre vie. Dieu a de meilleures choses pour vous et vous le savez. Vous le savez, vous le savez, vous le savez. Il est généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En fait, tout de suite, priez avec moi, du fond de votre cœur, avec vos lèvres. Prononcez ces mots, dites « Cher Jésus ». Allez-y, dites-le à haute voix, « Cher Jésus, viens dans ma vie, je mets ma confiance en toi ». Mes amis, si vous l'avez dit du fond du cœur, il vous a entendu. Il vous aime. Nous aimerions avoir de vos nouvelles, alors écrivez-nous. À bientôt.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.
Vous êtes épuisé? Vous traversez une crise et vous ne savez plus quoi faire? Procurez-vous le livret gratuit « Saisissez la force de Dieu » de Bayless Conley. Vous y trouverez 4 étapes qui vous aideront à aller de l'avant avec une force renouvelée. Il vous suffit de vous rendre sur bayless-conley.fr/force. Vous pourrez y télécharger gratuitement le magazine au format PDF. Vous allez voir, Dieu vous réserve de bonnes choses.